suis particulièrement heureux de me trouver parmi vous ce soir et à plusieurs titres. Et ce n'est pas une simple formule rituelle. Je trouve un intérêt tout particulier à être reçu dans un bistrot. Parce que le thème du bistrot, plutôt de la taverne, on pourrait dire, et si on est dans une caverne platonicienne, ça s'y prête bien, a quelque chose d'extrêmement important dans mon parcours depuis ces 30 années que j'ai passé à étudier les Indiens Otomis. Parce qu'il se trouve que le lieu où l'on boit, le lieu des consommations d'alcool, d'eau de vie, était pour moi un lieu initiatique. Et dans une revue récente, une recension récente de l'ouvrage qui est là, Anne-Christine Taylor a dit que ce livre confirmait ce qu'on savait déjà par le grand ouvrage, le grand roman de Malcolm Lowry, Au-dessous du volcan, c'est qu'au Mexique, la taverne, la cantina, comme on dit localement, est le haut lieu de la métaphysique. Alors nous allons voir que c'est non seulement le haut lieu de la métaphysique, mais aussi de ce que je vous propose d'être quelque chose qui ressemble à une métapsychologie, quitte à faire hurler tous les gens qui adhèrent d'une façon ou d'une autre à la discipline d'un obscur médecin viennois du début du siècle dont le nom m'échappe. Donc, mon parcours mexicain, en tout cas chez les Indiens Otomis, comprend deux volets. Il y a un volet chamanique, on pourrait dire. Toutes les années que j'ai passées avec ces spécialistes du rituel, ces experts de la communication avec le monde autre. Et puis, nous allons voir dans quelles circonstances, dans un deuxième temps, j'ai dû changer de terrain à l'intérieur du terrain, c'est-à-dire passer dans la cantina, c'est-à-dire le débit de boisson, où les Indiens commencent à 7 heures du matin à boire de l'eau de vie à 70 degrés et sont très vite ivres-morts. Et c'est au milieu des vagissements pathétiques et de ces hommes dans un état de coma éthylique avancé que j'ai passé les années à la fois les plus sinistres et les plus fascinantes de mon existence. Et c'était la seule façon pour moi d'accéder à leur univers de pensée. Moi qui n'avais jamais bu une goutte d'alcool de ma vie. Alors, je voudrais rappeler brièvement quel a été mon parcours, parce qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à ce qui est les frontières ou une espèce de voisinage qui peut vous paraître incongru avec la pensée freudienne, c'est-à-dire du point de vue des Indiens du Mexique, en quoi ils ont quelque chose qui... d'une certaine façon et à leur manière... explore les profondeurs de l'inconscient en des termes qui sont parfois d'une manière extrêmement troublante, très proche de ceux de Freud. Sur l'intitulé de l'exposé, c'était « Freud indien, point d'interrogation ». Pour ceux qui auraient un train à prendre très vite, je voudrais dire tout de suite que la réponse est non, mais je vais expliquer pourquoi avant. Alors, disons rapidement les étapes de mon parcours. 1969, j'arrive au Mexique, étudiant, et je suis lancé d'emblée sur un terrain totalement inconnu. C'était une région à l'époque qui était inaccessible, tout se faisait à pied, un, deux, trois jours de marche, dans un territoire, imaginez les Pyrénées, mais sans aucun moyen de transport. Et donc, mon travail consistait, placé sous l'égide de la mission archéologique et ethnologique française, à explorer tous les villages de cette région, à faire une espèce de cartographie de toutes les communautés, leurs traditions, leur structure de l'habitat, parenté. Enfin, c'était de l'ethnographie à l'ancienne. Donc j'ai fait ça pendant des années et des années. J'ai passé 6 années au Mexique au total. C'est une chance tout à fait exceptionnelle. Je suis revenu après tous les ans, donc depuis 30 ans. En tout cas, ces 6 premières années ont été pour moi fondamentales. Alors, il faut dire qu'à l'époque, en 69, se replacer dans le contexte. Là, on va discuter de questions qui touchent à la psychanalyse, mais à l'époque, en 69, on sortait à peine de 68, la psychanalyse ou la psychologie de manière générale était totalement discréditée en anthropologie, en ethnologie. Et sur place, au Mexique, j'ai découvert qu'il n'y avait que très peu de voies ouvertes, soit une ethnographie ou une ethnologie... écartelé entre une variante particulièrement dure du marxisme latino, c'est-à-dire dans, tant le credo était qu'il n'y avait plus de société indienne, mais des sociétés paysannes, des luttes de classe, et qu'il fallait établir des alliances entre les groupes paysans, métis, indiens, etc. Bon, dans une perspective révolutionnaire. Ça, c'était la tendance dominante dans l'école d'anthropologie à Mexico, qui était une énorme institution où on enseignait le capital pendant tout le cursus universitaire, premier semestre, deuxième semestre, enfin 6 semestres, lecture du capital. Ça, c'était les bases de l'enseignement ethnologique. Il y avait d'un côté ça, et de l'autre côté, alors c'était plutôt une espèce de muséographie, comment dire, une sorte d'entomologie sociale qui consistait à faire de la description des villages, des Indiens, de leurs coutumes, de leurs costumes, leurs céramiques, les différentes techniques, enfin, tous les... d'écrire hein, les modes de vie, les traditions, et tout ça était emmagasiné dans les musées, et c'était la seule alternative que j'avais, soit passer par la voie marxiste, ce qui était impossible par mes attaches institutionnelles, soit la voie muséographique traditionnelle. Donc aucune des deux ne me plaisait, mais à mon corps défendant, j'ai dû faire ça pendant des années. Donc inventaire dans les structures de l'habitat, etc. Mais ce qui n'a pas été inutile, parce que ça m'a permis d'avoir une très bonne connaissance du milieu et de comprendre des phénomènes qui auraient pu m'échapper par la suite. Alors donc, tout en faisant ce travail un peu fastidieux et en luttant contre les inconvénients de vivre seul, isolé, dans des régions difficiles, à la fois par le climat, il faisait... dans les villages d'altitude, climat de type alpin, froid, les maisons sans porte ni fenêtre, ou il neigeait dehors sans aucun chauffage. J'avais un maigre duvet qui ne suffisait pas à me chauffer. Pour ça, je posais le magnétophone sur le ventre, qui à l'époque était un agra, c'était un monstre antédiluvien. Ça me servait de protection. Et puis alors, on dégringolait très vite dans les terres chaudes, ou alors là, c'était une chaleur d'enfer, le tropique, enfin, comme on le voit représenté au cinéma dans certains films des années 50. Donc il y avait tout un étagement de climat, de végétation, tout s'entremêlé. Et donc, c'était une région extrêmement riche de ce point de vue-là, parce qu'à la diversité écologique correspondait aussi une diversité des genres de vie. Alors, entre-temps, j'avais fait la connaissance de chamans, qui a été une connaissance déterminante dans mon parcours, disons, intellectuel. Et j'ai vécu avec eux pendant plusieurs années. J'assistais aux séances thérapeutiques et les chamans Otomi, en cette particulier, ce sont une des dernières populations au Mexique à utiliser l'écorce de ficus, qui est l'écorce battue, comme le tapa en Polynésie. On replie les feuilles en deux, et ça vous donne, je ne sais pas si vous voyez... ces figurines en papier qui représentent des divinités ou des ancêtres. Et chaque chaman peut en découper des centaines et des centaines. Donc on a un corpus extraordinaire de divinités et grâce auquel le chaman peut procéder à des opérations de type thérapeutique, c'est-à-dire soigner, parce qu'il y a toute une catégorie de maladies qui sont essentielles, disons, dont les manifestations sont extrêmement lourdes, qui pour nous relèverait d'une espèce de médecine psychosomatique, c'est-à-dire des maladies telles que la chute, l'effroi, la jalousie, etc., qui peuvent entraîner la mort. Moi-même, il m'est arrivé de tomber, par exemple, et aussitôt on me couche et on me fasse tout le rituel qui consiste à découper ces personnages qu'on appelle ídolos en espagnol, mais qui a d'autres noms en termes indigènes, qui veut dire le visage de la vie ou d'autres noms de ce type. Bref, en tout cas, j'ai passé donc des années à suivre ces chamans. C'était une expérience assez troublante parce que, comme je l'expliquerai en parlant des otomies, le chaman a un faciès très particulier. Il est à la fois thérapeute, il est devin, il dirige les grandes cérémonies de fertilité pour faire tomber la pluie. Et ça m'est arrivé une fois de pouvoir mesurer leur efficacité lorsqu'au bout de plus de 6 mois sans qu'il tombe une seule goutte d'eau, dans une région qui était devenue totalement désertique, les habitants du village ont décidé de faire appel aux plus grands spécialistes de la région. Alors on a fait tous les sacrifices nécessaires, tuer des animaux, découper des centaines et des centaines d'idoles en papier, etc. Et une fois la cérémonie terminée, il me dit « Regarde, je vois rien, ciel bleu, 5 minutes après, des nuages couvrent le ciel et il se met à pleuvoir. Alors il m'a regardé comme ça d'un air un peu supérieur, mais le triomphe modeste, l'air de dire, tu vois, un peu notre technologie est beaucoup plus efficace que la vôtre. Alors donc j'ai passé des années à étudier tous ces rituels, et plus la moisson grandissait, plus j'entrais dans l'intimité de ces pratiques qui me fascinaient littéralement, parce que ça nous mettait en contact avec l'inframonde, le monde de la nuit, des puissances autres, etc. Et plus j'avais l'impression qu'il manquait une clé, que je ne comprenais rien. Et j'étais de plus en plus désespéré, parce que les années passées, j'aurais dû rentrer depuis longtemps en France, faire ma thèse, etc., suivre le parcours classique, et il y avait quelque chose qui ne collait pas. Je ne comprenais pas. Par exemple, voyez, ce personnage, je ne sais pas si vous le voyez, c'est un homme avec un pied amputé. Or, cet homme au pied amputé, c'est le maître du monde, c'est celui qui gouverne l'univers. Et son pied, il se trouve que c'est le même terme que le pénis. Et que l'amputation, bati en langue indigène, en otomie, ça veut dire manque, c'est la partie qui manque, mais ça veut dire en même temps richesse, abondance. Donc je suis entré comme ça dans une série de contradictions logiques et linguistiques auxquelles je ne comprenais absolument rien. Que le haut était l'équivalent du bas, que le plein, celui du vide, qu'il y avait un même terme pour l'anus et le vagin, etc. etc. Donc plus le temps passait, plus je me disais qu'il fallait découvrir une espèce de boîte noire qui m'était totalement cachée. Et puis un jour, dans un rituel, j'en parle un peu en introduction du livre, c'était un grand rituel qui s'appelle Carnaval, puisque ce sont des Indiens qui ont été évangélisés. Il a lieu à l'époque du Carnaval européen, donc avec tous les traits d'inversion de situation de rôle, etc., jeux scatologiques et compagnie, mais surtout des traits de la religion préhispanique qui avait échappé à la colonisation. Donc, dans ce carnaval, on voit apparaître toute une série de figures ancestrales, les démons de la végétation, le maître de la montagne, le maître de la brousse, etc. Plus des figures nouvelles qui sont apparues. Alors, à l'époque, il y avait le médecin, l'ingénieur, celui qui construit les routes. Il y avait celui qui vient... les services de dératisation qui venaient jusque dans ces montagnes, on ne sait pas pourquoi. Et puis des figures plus modernes, il y avait Adolf Hitler, il y avait Marilyn Monroe, à l'époque il y avait John Travolta, et puis, last but not least, l'ethnologue. Alors l'ethnologue, c'était un acteur qui représentait aussi une divinité ancestrale, puisque comme lui, je venais de l'inframonde, c'est-à-dire de l'autre côté de l'océan. Quand on me demandait d'où viens-tu, je disais « Nubepoeshaltier », c'est-à-dire de l'autre côté de l'étendue liquide qu'il n'avait jamais vue, mais qui savait être à l'est. Je disais « Oui, d'accord, mais ça veut dire sous terre. Sous terre, l'endroit où se trouve aussi Papa Roma, qui est le Vatican. » Donc, dans ces parages-là, on me situait à peu près là. Donc, c'était normal que je vienne de là. Alors, donc, cet ethnologue apparaît dans ce rituel dit d'ouverture, puisque tout s'ouvre, on ouvre l'écorce de l'arbre pour faire des figurines, là, c'est l'ouverture de la végétation, c'est le début du cycle agraire, etc. C'est aussi l'ouverture des jambes, on dit « choquenequa » aux femmes, c'est-à-dire « ouvre-toi ». Donc il y avait un aspect très fortement sexualisé là, dans cette affaire-là. Et donc, ce personnage qui représentait un ancêtre, mais que j'ai reconnu immédiatement comme étant l'ethnologue de service, est affublé d'une vieille tunique qu'on avait ramassée quelque part dans une ville voisine. Et il avait une attitude très particulière, c'est-à-dire qu'il circulait au milieu de la foule, il avait un carnet à la main, il avait un appareil photo constitué avec deux boîtes de bière Tecate, et puis trois allongées qui faisaient le zoom, et il photographiait sans relâche le corps, mais la partie inférieure du corps. Entre les jambes. Il prenait son carnet et il s'adressait aux participants. Il leur demandait « qu'est-ce que c'est ça ?» Il notait « à quoi ça sert ?» Enfin, les questions standards de l'ethnographe. Alors, bon, j'assistais un peu médusé à cette scène. Et puis, une fois ce rituel terminé, je me suis dit « il y a quelque chose qui se passe. » Je crois que, on est en train d'assister à quelque chose qui est un désir de pénétrer, un désir des acteurs eux-mêmes dans le discours de l'ethnologue, de vouloir lui dire quelque chose et lui dire bah, écoute, tu as tout faux jusqu'à présent, parce que ça fait des années que tu es chez nous, mais tu n'as rien compris. Rien compris à ce qui se passe, parce que il faut que tu repartes à zéro et que tu fasses une enquête sur l'anatomie, la physiologie corporelle, et puis surtout sur la partie basse du corps. Alors là, j'ai repensé à l'histoire des otomies. Les otomies sont une des plus vieilles populations implantées au Mexique, installées dans cette partie centrale du Mexique il y a plusieurs millénaires. Et ils ont été toujours vassalisés, et y compris par les derniers conquérants qui étaient les Aztèques, ceux au contact desquels se sont trouvés les Espagnols en 1519. Et le terme otomie lui-même n'est pas un terme indigène, c'est un terme aztèque, nahuatl, qui veut dire abruti, fainéant. On disait dans les familles aztèques, ne te comporte pas comme un otomie aux enfants, c'est-à-dire sois respectueux, sois propre, surtout les otomies sont d'une saleté répugnante, il suffit de passer dans le village voisin chez les Indiens Totonac ou Nahua, donc qui sont les descendants des Aztèques, pour voir le contraste est immédiat. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Alors les otomies n'ont laissé aucune œuvre de civilisation, style pyramide, codex, calendrier, toutes ces paraphernalia magiques que vous voyez dans les musées ou lorsque vous visitez le Mexique, par exemple, ou l'Amérique centrale. Ils n'ont rien laissé de tout ça. C'était des mercenaires, c'était des serfs uniquement. Et alors que l'Empire aztèque a été littéralement démantibulé, mis en pièces en quelques dizaines d'années à l'arrivée des Espagnols, c'était un empire mais extrêmement fragile, en décapitant les élites, les otomies qui avaient l'habitude de vivre dans un état de soumission, de vassalité, ont tiré leur épingle du jeu et avec une stratégie politique extrêmement habile à travers toute l'époque coloniale et juste à l'époque actuelle, sont parvenus à à accepter d'une manière sincère l'évangélisation dans des régions très reculées où le prêtre ne venait que de temps en temps. On a des récits du début du XVIe siècle où les prêtres se disent accablés devant ces populations de sauvages, de barbares, alcooliques, etc. Et on leur prêtait encore d'autres vices. Et donc ils sont devenus chrétiens. Sont devenus chrétiens, mais à la différence des autres populations qui ont été christianisées, c'est pour ça que j'en parlais avec Christian Jacquelin tout à l'heure sur la question du syncrétisme, il n'y a pas du tout de syncrétisme. C'est-à-dire, ils sont devenus chrétiens pour rester païens. Alors, c'est là où leur idéologie m'a tout à fait fasciné, c'est que depuis l'époque coloniale, et là on a des récits de missionnaires du début du XVIe siècle qui racontent des rituels qui sont exactement ceux que j'ai vus au milieu du XXe siècle. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'ils ont réussi à se faire passer pour catholiques, et ils le sont aussi, même actuellement. Et comme m'a dit l'un d'eux, en parlant des voisins, les Totonacs, oui, les Totonacs ce sont des sauvages, ils n'ont qu'un seul Dieu. Nous, les catholiques, on en a des quantités. Donc, il y a quelque chose de... là, tout à fait fascinant. Et je me demandais comment tout ça s'articulait dans leur tête. Parce que je voyais bien, par exemple, que dans les villages, il y avait ce qu'on appelle des oratoires. Oratorios, en espagnol. Un gukran, c'est-à-dire une maison sacrée en otomie. Alors, il y a une grande maison en adobe, en terre séchée. Et là, on fait venir le prêtre une fois par an. Et puis, il y a une grande messe. On sort les images pieuses, les statues de l'église, puisque tous ces villages ont des noms chrétiens, San Lorenzo, Santana, San José, San Pedro, San Juan, etc. Bon, le grand jeu. Le prêtre vient, il est ravi, et dès qu'il a dos tourné, on ferme les portes de ce grand bâtiment, et à côté, il y en a un tout petit, et on se glisse à l'intérieur, et là, on commence à prendre la guntoni, c'est-à-dire la fleur sacrée, cannabis indica, pour les connaisseurs. Et là, on arrive à entrer en contact avec les ancêtres, on fait des sacrifices, etc., et on boit toute la nuit, il y a des phénomènes de transe. Donc un univers totalement dichotomisé. Alors ça, c'est déjà un des aspects surprenants. Mais le plus surprenant, c'est qu'il y a une inversion systématique entre l'univers cosmique, céleste, diurne, dans lequel le soleil qui est confondu avec le Christ ou la Sainte Trinité, n'est qu'une divinité secondaire, ce qui est tout à fait rare et bizarre par rapport aux autres religions en Mésoamérique. Il y a une autre divinité, c'est la Lune qui est alors là l'astre qui est de toutes les fascinations, parce qu'elle commande le sang menstruel, parce qu'elle est associée au cycle de végétation, elle est associée à la mort. Bon, là il y a déjà une piste. Mais surtout, j'ai appris un jour, en parlant avec, lorsque, après cet épisode, l'ethnologue participant, l'ethnologue indigène, me disant quelle était la voie à suivre, donc j'ai arrêté de poser des questions, définitivement, ce qui était contraire disons, à la méthodologie la plus standard de l'ethnologie, et j'écoutais ce que disaient ces hommes à partager leur scène d'ivresse, donc qui était quotidienne forcément, ils sont sous du matin au soir. Et j'habitais dans des cantinas, c'est-à-dire dans un endroit qui est un véritable enfer, je veux dire, parce que vous êtes au milieu de gens ivres du matin au soir, je ne peux pas en dire plus parce que vous êtes encore en train de manger. Bon. Mais en tout cas, c'était essentiel pour moi d'être là et d'écouter ce qu'ils disaient. Et j'ai compris ce qu'ils me disaient. Ils employaient sans arrêt la formule « matéokran, matézitron ». Alors, matéokran, c'est la moitié supérieure du corps. C'est la moitié céleste, c'est la moitié de la religion catholique, la religion d'État, la religion officielle. Matézitron, c'est-à-dire la moitié du mangeur de noms, c'est la moitié basse du corps, c'est la moitié otomie, la moitié indigène, c'est notre moitié, c'est nous, c'est-à-dire ce qu'il y a en bas. Et en écoutant donc ces vagissements éthyliques pendant des mois et même des années, je me suis rendu compte que les otomies n'avaient que deux thèmes de conversation, le sexe et la mort, et qu'en fait c'était une seule et même chose. Alors là, mon enquête a pris une toute autre dimension, parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait quelque chose qui est de l'ordre du caché. Et qu'au fond, la religion catholique, c'était quelque chose de bien commode, parce que ça permettait à la fois de donner à voir au monde extérieur une image d'une communauté ordonnée, et en même temps de camoufler tout un univers prodigieux, grouillant de monstres, d'ancêtres, se livrant aux actes les plus immondes que la morale réprouve. Ce qu'on trouve dans des textes du XVIe siècle, chez un franciscain, Sahagun, qui avait appris le nahuatl, et qui est le seul ethnologue que je sache au milieu du XVIe siècle à avoir écrit toute une, en quatre tomes, une ethnologie des nahuas de la vallée de Mexico en nahuatl et de l'avoir traduit ensuite en espagnol. Je crois qu'aucun ethnologue serait capable de faire ça aujourd'hui. Et il y a un passage sur les otomies et qui parle de leurs vices, de leurs défauts, etc., etc. Donc on comprend que c'est quelque chose de très ancien et que c'est donc cette partie basse du corps qui pose problème. Or, là, je ne sais pas si vous voyez sur le livre, il y a un petit dessin qui montre que le corps a cette propriété, le corps humain, le corps de l'homme, d'avoir un double miniature de lui-même, qui est son pénis. Et le pénis a exactement la forme du corps lui-même. C'est un corps qui parle, qui produit un discours, ce qu'on appelle Marwani, un discours de vérité. Le discours de vérité, c'est le discours du mythe, c'est le discours qui raconte les choses secrètes de ce monde. C'est le discours des rêves et c'est le discours de ce qu'on va appeler, entre guillemets, pour l'instant, inconscient. Et à quel moment se produit ce discours? Il se produit sous une forme extrêmement fugace et rapide, à un moment où on peut accéder à une espèce de vision du monde, c'est-à-dire une espèce de flash au moment du rapport sexuel. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'homme entre au contact de la femme, son pied est pris dans un monstrueux vagin denté. Alors le thème du vagin denté, c'est quelque chose qu'on retrouve aux Amériques, depuis le subarctique jusqu'en Terre de Feu. Mais surtout en Amazonie aussi, mais c'est assez rare au Mexique. C'est pas très répandu dans les populations indiennes. Or, ce vagin denté broie cette espèce de corps qui lui est offert, donc le pénis, et le transforme en ce qu'on appelle « rentinte », c'est-à-dire la petite queue, qui est l'enfant que la femme porte en elle. Ce qui explique que l'homme est représentée par le chiffre 1, la femme par le chiffre 2, puisqu'elle est masculine et féminine en même temps. C'est pour ça que la Lune aussi a ce double aspect. Elle est femme, vierge, la Vierge de Guadeloupe, en tant qu'épouse du Soleil, mais elle est aussi homme en tant que représentante du diable. Et là, il y a quelque chose de tout à fait fascinant, c'est que ce concept de diable qui arrive d'Europe s'est répandu avec une espèce de vivacité épidémique dans ces populations indiennes, et les Ottomies en particulier, parce qu'il correspondait tout à fait à l'ambivalence des divinités préhispaniques. C'est-à-dire qu'il y avait toujours ce double aspect, principe de vie, principe de mort. Alors donc le diable, le diablo en espagnol, ou zitun, c'est-à-dire celui qui commande la moitié basse du corps, c'est lui en quelque sorte qui est le maître de nos représentations. Alors donc, je voudrais vous parler donc de cette fameuse théorie de l'inconscient à partir de ces données. Donc vous voyez qu'on a affaire à une population assez étrange parce que elle voile tout en révélant. Elle a deux univers de pensée sans devenir elle-même schizophrène. Ils sont des gens qui sont à la fois chrétiens, mais qui ont quelque chose qui leur est proprement secret et qu'ils dévoilent dans ces dans des moments extrêmement violents, fugaces, que sont par exemple donc les crises d'emportement éthylique qui souvent se terminent par des coups. Je n'ai jamais vu autant de balafrés de ma vie. C'est une société extrêmement violente. Je sortais du cocon de la vie française, paisible, enfin pour tout ce que j'avais connu jusqu'à présent, je me suis retrouvé dans une société d'une brutalité extrême. Et tout ça, c'est apporté au crédit du diable. Parce que le diable, c'est lui qui commande tous nos actes, nos représentations, et ce qui dépénalise les actes de violence. L'assassin n'est pas un assassin. C'est le diable qui est en lui qui d'une certaine façon, l'agit. Alors, je voudrais dire maintenant ce qui peut nous rapprocher de cette question de la métapsychologie freudienne. Ce qui ressort des entretiens avec les chamans, c'est que le corps est perçu comme une espèce de modèle architectural qui permet de penser un peu comme une distribution des instances psychiques qui le gouvernent et qui est parfaitement congruent, comme je disais, avec l'étagement de l'univers, partie céleste et partie souterraine. Donc il y a une parfaite adéquation entre la structure du cosmos et la structure de l'homme. En plus, il se trouve que ces figures en papier découpé représentent des entités qui sont dans le monde, mais qui sont aussi incorporées dans cette partie basse du corps, dans ce qu'on appelle le vieux sac. Alors, le vieux sac, c'est une espèce de figure étrange, parce que c'est à la fois un acteur du rituel dont je parlais tout à l'heure, de ce carnaval. Il est vêtu en fibre de sisal, c'est-à-dire l'agave, qui est aussi une plante qui a des connotations lunaires et diaboliques. Il vient il sort de la brousse et il vient au moment du carnaval circuler parmi les vivants. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Il apparaît sous la forme d'un vieillard, voûté, ridé, impotent. Et on lui pose la question, on lui dit « Après du bateau, grande, où vas-tu, vieille aveugle ?»« Je vais voir les filles. »« Après du bateau, grande, où vas-tu, vieux sourd ?»« Je vais écouter les chansons, qui sont tous, ce sont des chants scatologiques tous. »« Où vas-tu, vieux muet ?»« Je vais chanter. »« Je vais chanter à mes fils et mes filles, dont les êtres vivants. » etc., etc. Or, on voit que ce personnage vient dans ce rituel pour manifester sa puissance. Et sa puissance, il ne peut la manifester qu'à partir du moment où c'est un être qui est sacrifié. Alors, c'est là encore tout le paradoxe, c'est que le maître du monde, c'est ce maître au pied amputé, et c'est l'amputation qui lui permet donc d'accéder à la puissance. Et comment se fait cette amputation ? Alors, c'est là qu'intervient dans le carnaval un personnage qui est vêtu d'un masque blanc, des cheveux blonds, donc représente une femme européenne, c'est-à-dire du monde en dessous, qui apparaît le premier jour en disant je viens de faire l'amour avec mon partenaire, le maître à tête de vieux, comme on l'appelle, c'est le gland, hein. Il ne faut pas se tromper, c'est cette espèce de phallus cosmique que représente le vieux sac. Et je vais recommencer, je viens des terres chaudes qui sont les lieux de la luxure, lieu de la civilisation Huastec, qui a déjà à l'époque préhispanique été célèbre pour leur lubricité. On a des chroniques, même des Aztèques en parlent, etc. Quand ils étaient ivres-morts, là aussi, et lorsqu'ils ne pouvaient plus absorber le sucre de l'agave fermenté par la bouche, ils se faisaient des injections par l'anus. Ça, c'est resté dans les chroniques des missionnaires du XVIe siècle. Donc, vous voyez, elle vient des terres chaudes, elle vient faire l'amour, et le lendemain, elle réapparaît dans le rituel enceinte, ou enceinte, puisque c'est joué par un homme. Et le surlendemain, elle ressurgit avec dans les bras soit une poupée de couleur noire, un petit, c'est le petit Otomi, donc il représente les Otomi à venir, la génération à venir, c'est l'ontogenèse qui est en marche, et la phylogenèse en même temps, puisqu'elle dit que c'est la nation atomique qui est là. Ou alors c'est une poupée blonde aux yeux bleus, une fille, un garçon noir ou une fille, donc, indifféremment. Donc ce sont ces figures étranges qui sont là, qui peuplent ce rituel, et c'est la figure de cette femme qui s'appelle Heretsu, c'est-à-dire la femme folle d'amour, qui est jouée par un homme, qui intrigue, parce qu'elle est doublement sexuée. Elle accouche d'un enfant, mais elle-même s'est jointe par un homme. Et les autres acteurs, par exemple, il y a des prostituées cérémoniales, il y a des scènes de sodomie, etc. C'est très compliqué. Mais en particulier, il y a des rôles qu'on appelle les chumpeux, les vieilles femmes, qui ont un terme espagnol, qui est damas. Les damas, ça désigne, elles ont des robes en mousseline, elles portent un masque, elles sont muettes, c'est les prostituées de la ville. Donc il y a ces prostituées rituelles qui sont là, qui dansent autour de la femme folle d'amour, qui relèvent leur jupe par moment, et on voit bien qu'elles montrent leur sexe, ce sont des hommes. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui donne le tournis pour l'ethnographe moyen que j'étais, et qu'on a bien du mal à s'y retrouver. Alors, qu'est-ce que c'est que ce vieux sac? Non, je disais, c'est un acteur rituel. Mais le vieux sac, c'est quelque chose qui est dans le bas du corps, qui est invisible, et dans lequel viennent s'engouffrer les actes et les représentations. C'est-à-dire tout ce que nous faisons, tout ce qui est agi dans le monde est engouffré, est enfermé, ficelé dans ce vieux sac. Et tous les vieux sacs individuels, personnels, sont en fait des occurrences d'un immense sac qui est la Shimroi, la peau du monde, qui n'est autre que cet homme, au pied amputé, le maître du monde, le diable. Ce qui fait que toutes ces représentations, tout ce qui est notre histoire passée, est enfermé dans ce sac, mais ressurgit à des moments programmés, comme ces rituels, ou de manière imprévisible. Et il faut toujours colmater les brèches. C'est pour ça que il y a un rituel spécifique qui consiste à... C'est un relief jurassique, et il y a des grottes, des anfractuosités dans la montagne qu'on appelle des avennes dans les reliefs karstiques, comme dans les Causses, par ici, où on trouve en Yougoslavie. Et donc on rebouche régulièrement ces trous, pour éviter que toute l'histoire passée du groupe ne ressurgisse par là et vienne perturber le monde des vivants. Donc il faut sans arrêt draper, en quelque sorte, ces ouvertures. Les images mentales qui sont dans notre, on va dire, inconscient, pour faire vite, qui sont stockées là provisoirement, circulent constamment d'un corps à l'autre. Et ça pendant la période du sommeil, pendant la nuit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, en quelque sorte, de psychisme personnel, idiosyncrasique. Il n'y a qu'une seule... forme générale, globale, qui est celle du maître du monde, le diable, qui lui est en charge d'une sorte de monitoring occulte. Il est un peu comme un DJ dans les boîtes de nuit, et c'est lui qui fait écouter en quelque sorte une petite musique, et qui est celle de vous, de moi, etc., à un moment donné. Mais nous ne sommes pas propriétaires de nos propres représentations. Comme disait Karl Kraus, je n'ai pas l'habitude de m'immiscer dans mes affaires intimes. Les automates pourraient dire la même chose puisqu'il n'y en a pas. Il n'y a rien d'intime, il n'y a que de l'universel. Alors ça, c'est quelque chose qui est difficile à accepter. Donc, par des procédures chamaniques ou de manière involontaire, lors des moments critiques de l'existence, ces images sont détachées de leur support individuel et puis sont lâchées, recapturées comme ça dans le monde, pour être enfuies à nouveau. Alors, c'est là qu'on voit qu'il y a des points quand même assez troublants si on essaie de faire une espèce de parallèle avec la métapsychologie freudienne. Il y a l'idée de quelque chose de caché, de refoulé, on pourrait dire, en termes freudiens, qui par moments fait retour dans la conscience sous forme déguisée, là c'est sous forme rituelle, et qui gouverne nos actes et nos représentations. Nous ne sommes pas maîtres dans notre propre maison, comme le disait très bien Sigmund Freud. C'est exactement ce que disent les automates. Par ailleurs, si vous êtes amusé à lire la science des rêves du Traum Deutung, il y a quelque chose de troublant. C'est que dans la science des rêves, Freud nous dit, dans le rêve, il y a un contenu latent et un contenu manifeste. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident pour la mentalité populaire européenne. Il y a bien sûr les clés des songes qui permettent d'interpréter. Mais les automates, ils ont aussi cette idée qu'il y a un contenu manifeste, qui est le contenu du rêve. Par exemple, je rêve que je vais devenir riche. Ça, c'est le contenu manifeste. Or, il y a toujours à cet énoncé une prédiction qui l'accompagne et qui est, ça veut dire, je serai pauvre. Je rêve que je possède une femme, je ne l'aurai pas. Je rêve qu'elle m'échappe, j'en serai maître, etc. Donc, il y a un principe d'inversion systématique, un peu sur la forme du principe d'opposition entre contenu latent et contenu manifeste, et qui est aussi un principe d'inversion cosmologique entre le jour et la nuit, entre le haut du corps et le bas du corps. On revient toujours à la même affaire. C'est le haut et le bas qui commandent l'organisation du monde. Non seulement du corps, mais aussi de l'espace, puisque les villages sont divisés aussi en deux territoires. Il y a la moitié du haut et la moitié du bas. C'est ce qu'on appelle les organisations dualistes. C'est quelque chose qui est très fréquent en Amérique, un peu moins en Afrique, on trouve. Et donc, la moitié du haut, c'est toujours la moitié solaire, la moitié dite chrétienne, et la moitié du bas, c'est la moitié lunaire, la moitié de l'inframonde, etc. Alors, vous voyez que le corps, l'environnement, l'espace, le cosmos sont pensés selon le même principe bipartite de division haut-bas. Alors, quelle différence y a-t-il donc entre la métapsychologie freudienne et la théorie automie ? Je crois que là, on est allé un peu, là je vais très rapidement, mais il faudrait, si on avait plus de temps, d'entrer dans les détails, jusqu'au bout de ce que peuvent dire nos exégètes indigènes, c'est-à-dire qu'ils dépensent une énergie considérable pour penser l'univers comme agi par ce qu'ils appellent Nzaki, c'est-à-dire la force. Une puissance qui est là, comme une espèce d'énorme batterie qui commande la marche du cosmos et aussi celle de la partie inférieure du corps. C'est ce qu'en termes psychanalytiques, on pourrait appeler la notion de pulsion. Il y a quelque chose d'étrangement similaire à la notion de pulsion. Donc il y a quelque chose, là aussi, des similitudes qui sont frappantes. Mais que là où les divergences apparaissent, c'est que par rapport à l'hypothèse freudienne de l'inconscient, la théorie indigène, elle, immobilise en quelque sorte cette notion de vieux sac d'inconscient parce qu'elle lui donne un caractère insaisissable, vous me direz, c'est aussi propre à l'inconscient psychanalytique, mais aussi parce qu'elle règle en quelque sorte les représentations et les moments où elles doivent réapparaître, ressortir de l'endroit où elles ont été refoulées. Mais ce qui nous trouble toujours, c'est le fait que la localisation dans la partie basse du corps, plus précisément des organes génitaux, grâce à cette anthropomorphisation du pénis, ou qu'on l'appelle gensus, c'est-à-dire la queue littéralement, signale clairement que la chose sexuelle est au cœur de cette mécanique à produire des représentations, puisque la queue donc, est conçue à l'image d'un corps qui parle, comme je disais. Elle est productrice de ce qu'on pourrait appeler un logos spermaticos. Le sperme, c'est la parole du diable. Et le terme sphère veut dire aussi sang. Donc c'est la parole sacrificielle. Et c'est pour ça que dans l'imaginaire otomi, le pénis est sacrifié à chaque fois qu'il y a un rapport sexuel. De la même façon que le soleil qui naît jeune le matin suit son périple dans le ciel jusqu'au zénith, puis ensuite retombe, et le soir est broyé par une monstrueuse mâchoire qui est celle de la terre-mère, qui le broie, et dans ce laboratoire souterrain qui est l'inframonde, va reconstruire un nouveau soleil, un nouvel astre qui ressurgira le matin à l'est. Et c'est tous les jours comme ça, et toute la vie, pendant les cycles, jusqu'à la fin des temps. Donc, on voit que cette parole invisible, qui n'est pas celle produite par l'activité consciente, c'est une parole de vérité. C'est pour ça qu'au moment du contact sexuel, on dit « makwani ». Ça veut dire l'endroit de la coupure. Vous avez bien vu, ça coupe. Et « huani », ça veut dire en même temps la vérité. C'est l'endroit de la vérité. Alors, ce n'est pas la vérité au sens sémantique, au sens sémantico-formel, mais vérité au sens ontologique, comme le disaient les Grecs, de « aletheia », c'est-à-dire le dévoilement de quelque chose. Quelque chose qui se dévoile et qui est l'inframonde, notre inframonde, ce que Freud appelait « l'inneres Ausland », ce territoire étranger, mais qui est à l'intérieur de nous. Et c'est aussi le dévoilement, ils ont une métaphore, mais qui a un côté aussi très concret, c'est celui de la jeune fille lors de son premier contact sexuel. Elle dit « pipan la Shimhoi », c'est-à-dire « je viens de découvrir Shimhoi, l'enveloppe du monde, je viens de découvrir le monde ». Au moment de la défloration. Et Shimhoi, c'est aussi le nom de ce citoyen, c'est-à-dire El Diablo. Alors, vous voyez, on est devant un certain nombre de difficultés, d'aporie intellectuelle, qui fait que, au bout de quelques années, je me suis dit qu'il fallait sérieusement m'intéresser à la seule discipline, parce qu'il n'y en a pas d'autre, qui s'intéresse à la vie intime des êtres, qui est la psychanalyse. Et donc, j'ai réorienté mes enquêtes, non plus sur les aspects symboliques, classiques, si vous voulez, d'une ethnologie habituelle, mais j'essayais de voir, et c'est un peu le travail que je suis en train de mener en ce moment, de voir jusqu'à quel point les théories indigènes pouvaient, à leur manière, c'est-à-dire dans leur langage cosmologique, qui parle d'ancêtres, de démons, de femmes folles d'amour, de phallus cosmique, etc., pouvait dire quelque chose sur la vérité, sur le sens secret des choses et sur le quelque sorte qui relèverait de l'inconscient. Mais cette vulgate otomi s'accorde d'une certaine manière avec la perspective freudienne sur le fait que la force en elle-même ne peut pas être représentée directement dans le système inconscient. Elle se situe à la fois du côté du somatique, des excitations, on le voit qu'elles sont constantes, puisqu'il y a cette espèce de violence permanente, de brutalité, qui va d'ailleurs de pair avec une espèce de formalisme incroyable dans les relations. Dans les villages, tout est calme, paisible, on se salue avec extrêmement de politesse, etc., on parle tout doucement, on n'entend pas un bruit. Et je me souviens, le directeur de l'institution dans laquelle je travaillais m'avait dit, « Monsieur Galigné, faites très attention quand vous irez dans le village otomi, soyez extrêmement courtois, ces Indiens sont victoriens. » Victoriens, je veux bien. Mais derrière, peut-être aussi, l'utopie victorienne, c'est qu'elle cachait aussi des choses beaucoup plus troublantes. Donc, la force, je disais, ne peut pas être représentée dans le système inconscient. Elle se situe à la fois du côté du somatique, puisqu'on le voit, ces excitations, et de leur expression psychique à travers ces représentants, comme le dit Freud, qui sont identifiés à ces personnages qui s'appellent des juges. Il y en a comme ça des dizaines, des centaines. Ils sont tous placés sous la juridiction du diable. Et ce qui est intéressant, c'est que le terme de juge, tsudabi, qui veut dire la queue, qui sert en même temps d'instrument aratoire, d'arrière, hein, c'est le nom, l'étymologie du mot juge. C'est aussi le nom que porte l'autorité du village, le représentant du pouvoir fédéral mexicain, le juez. C'est un juge. Et alors, le monde environnant est peuplé de ces juges. Il y a le juge de la montagne, il y a le juge du cimetière, de l'église, du chemin. Et ce sont tous des personnages maléfiques. Et parmi ces juges, il y a par exemple celui-là. Vous voyez, il n'est pas très sympathique parce qu'il a des machettes de chaque côté. Alors lui, ce juge s'appelle Judío. Alors Judío, qu'est-ce que c'est ? C'est le juif. Et d'où vient ce juif ? Il vient du XVIe siècle, des débuts de la colonisation et de l'évangélisation ratée, puisque les missionnaires augustins et franciscains ont baissé des bras rapidement devant l'impossibilité d'évangéliser ces otomis tellement ils étaient sauvages. Ils ont récupéré au passage des terres qui sont restées. Et donc c'est une des forces maléfiques qui dans la nuit opère. Alors vous pouvez voir la différence entre... Je sais pas, il y a des gens derrière moi, je suis désolé, on ne voit pas. Ici un personnage qui est, lui, otomi, comment dire, local. Il a les pieds, il a des pieds plats. Bon. Ici, sur cette figure, apparaît un personnage, c'est plus que des chaussures, c'est des bottines. Et les bottines, c'est ce que portent les métis. Les Indiens ne portent jamais de bottines. Donc c'est un personnage qui appartient au monde de l'autre côté, comme tous les gens qui sont de l'extérieur. Ou comme l'ethnologue, moi j'étais appelé d'un terme, chansoubi, qui sur le coup m'a profondément vexé, la première fois que j'ai entendu ce terme. Et après j'ai compris qu'il était extrêmement prestigieux, et c'est pour ça que je m'empresse de vous donner la traduction. Femme excrément puant. Pourquoi femme ? Puisque je venais du monde en dessous, donc tout est inversé, toutes les catégories sont inversées, les femmes ont le sexe à l'envers, etc. Bon. Je ne pouvais pas être homme comme eux, excrément, puisque le diable produit de l'excrément qui est l'or. J'appartiens au monde des riches, forcément, même si j'étais vêtu comme eux, où j'avais des vêtements qui étaient en piteux état, mais j'étais quand même le riche, j'étais blanc. Et puant, parce que la puanteur, c'est les ancêtres. C'est aussi l'inframonde. Et donc, ça me donnait le statut de divinité. Et c'est pour ça que j'avais pu apparaître dans ce grand rituel de recréation du monde qui est le carnaval. Donc, on voit qu'on a un peu sur un principe assez voisin de la métapsychologie freudienne, l'idée que le monde est gouverné par des instances qui sont hiérarchisées. Et ces instances, sont, qu'elles soient dans le corps ou à l'intérieur, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de solution en continuité entre le corps humain et l'environnement. La peau n'est pas une frontière naturelle. Donc les frontières de la personne sont beaucoup plus vastes que celles du corps propre. Alors, donc, le temps passe, j'aurais mille choses à vous dire. Je ne sais pas comment retomber sur mes pieds. Alors, d'une certaine façon, ce que je voulais vous dire, c'est que on pourrait, à partir de ces brèves remarques, mais vous imaginez derrière tout l'univers extraordinairement riche de symboles, et tout ça dans un langage absolument épouvantable, scatologique. Et en plus, les otomis adorent faire des mots d'esprit. Et j'ai dû apprendre là aussi cette gymnastique. J'étais devenu expert en la matière au bout de quelques années. Et parce qu'en plus, les mots d'esprit, c'est ce qui permet de comprendre, d'avoir accès justement à ces notions portant sur l'inframonde et de jouer avec les termes, surtout ces homonymies invraisemblables qui fait, comme je disais, que le vide est l'équivalent du plein. Pour dire qu'une femme est belle, Shenso le Shizu, ça veut dire cette femme est épouvantable, effrayante, mortelle. On ne peut pas le dire autrement. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui permet tous les calembours possibles. Alors, à partir de ces brèves remarques, je voudrais, pour ceux qui sont un peu intéressés par la psychanalyse, voir en quoi on pourrait essayer de, puisque je parlais de métapsychologie indigène, d'utiliser le triple point de vue topique, économique et dynamique de la métapsychologie freudienne. Alors, on va reprendre très, très rapidement et pas à pas le raisonnement indigène. Le point de vue topique. Selon la théorie locale, ce système fonctionne à deux niveaux. Nous avons vu, il y a le conscient, c'est ce qui C'est cette espèce d'espace psychique qui est là entre nous maintenant. Et puis l'inconscient, c'est ce qui est en bas. Tout au moins qui se rapporte aux représentations produites par des forces souterraines qui échappent à l'individu qui en est le vecteur et qui sont stockées dans le vieux sac. Ces images se distribuent ensuite dans le monde à différents degrés de profondeur et viennent se fixer à nouveau sur d'autres supports corporels. Donc il n'y a pas de propriété de la pensée des images, des représentations, des désirs, etc. Ça, c'est le point de vue topique, si on emploie la terminologie freudienne. Le point de vue économique. À chacune des représentations est associée une énergie particulière, le nzaki. Ce sont ces juges qui sont porteurs de l'énergie cosmique et cette énergie qui s'accumule dans le bas du corps et qui ressurgit par moments sous forme de violence, sous forme de désir, de posséder, etc. Ce sont les juges, ces images-forces, et qui détiennent une partie de l'énergie universelle dont le diable, lui, assure ce contrôle occulte dont j'ai parlé. Alors ces énergies sont modulables, elles croissent et décroissent en fonction des cycles saisonniers, de l'usure du cosmos et de l'action rituelle entreprise pour réactiver la machine cosmique. Alors chaque être humain est porteur d'un fragment de celle-ci. Ça, c'est l'aspect économique. Alors j'en viens maintenant au troisième point de la métapsychologie. Donc c'est l'aspect dynamique. Ces forces qui sont en conflit dans le monde souterrain doivent franchir une barrière. Cette barrière est matérialisée par cette couverture qui sert à empêcher les représentations mauvaises, pathogènes, de ressurgir et de venir perturber les vivants comme font les morts. On est constamment sous la menace des ancêtres. Ils peuvent à tout moment revenir, on les rencontre dans la forêt, etc. Et c'est pour ça que la fête des morts est si importante dans ces sociétés, et ça c'est vrai pour tout le Mexique en général. On doit honorer ces morts avec des offrandes alimentaires. Les morts viennent cannibaliser les vivants. C'est pour ça que les otomis représentent des personnages, des figurines anthropomorphes, mais en pain, et qui sont mangées, entre guillemets, par les morts. Et ça, c'est un rituel qui est impératif. Il y a des tas de croyances qui circulent sur des gens qui avaient oublié d'honorer leurs morts et à qui il est arrivé, bien sûr, des mésaventures, un membre coupé. C'est toujours quelque chose de coupé. D'ailleurs, tous les récits se terminent par « il a été coupé, il est mort ». Et c'est la façon dont se terminent tous les mythes. Yabikwatir Nyanki, le mythe s'est achevé, ou ça veut dire aussi « il vient de faire l'amour ». On ne peut pas le dire autrement. Alors, donc, pendant la fête des morts, si on n'a pas les moyens d'honorer de manière ostentatoire ces morts, on fait comme on peut. Alors, par exemple, le meurtre. On tue quelqu'un. J'ai vu une fois dans un village un muletier qui est attaqué sur un chemin. On l'a tué pour lui prendre son argent, pour honorer ses propres morts. Paradoxal, mais c'est comme ça. Donc ça, c'est l'aspect dynamique. Les rituels d'ouverture, comme ce carnaval, sont destinés précisément à libérer ces forces psychiques dans le monde. Une libération dont porte trace le langage, la motilité, la subversion temporaire des rapports d'autorité. Donc il s'agit d'une sorte de remontée du monde en bas, de l'inframonde, qui est matérialisée par le cheminement de tous ces ancêtres que l'on voit revenir parmi les vivants, où ils disent qu'ils viennent répandre leur sang, le rim, ça veut dire le sperme, c'est la même chose, donc fertiliser les vivants, les femmes. Et pourquoi ? Parce que le sperme est accumulé dans les os. C'est pour ça qu'on vénère les squelettes, parce qu'à l'intérieur des squelettes, la moelle contient la substance spermatique. Donc on le voit, l'édifice métapsychologique otomi laisse en suspens toute une série de questions qui, en l'état actuel de mes recherches, restent encore obscures. Mais je pense que ce système est absolument fascinant parce qu'il permet de nouer les processus psychiques, un jeu de force en interaction dans lequel, appelons ça, la chose sexuelle sera en quelque sorte la plaque tournante. Les fondations de l'édifice dont l'enveloppe est constituée par le vieux sac. Et ce jeu de force génère des représentations dont certaines sont dites chnitschki, c'est-à-dire délicates ou dangereuses, et restent protégées par une sorte de frontière psychique ou de peau, et qui est cette espèce de cap qui est dans l'inframonde. Alors, rappelons pour terminer quelques vérités d'évidence, c'est qu'à aucun moment, en suivant la pensée indigène, on a quitté le domaine de l'interprétation, de ce que pensent les Indiens. Et on pourrait dire, par exemple, comme le fait André Green à propos du mythe et du rêve, que les otomis interprètent un donné inconnu
sans savoir ni ce qu'ils interprètent, ni comment ils l'interprètent. Et ce système explicatif, qui est en apparence ouvert sur le monde, qui nous dit tant de choses sur le soleil, la lune, les ancêtres, la terre, l'enfer, etc., est extraordinairement clos sur un nombre fini de prémices fondamentales et hypostasie en quelque sorte un sujet de l'inconscient en confondant métapsychologie et cosmologie, puisque ce sujet se trimballe un peu partout dans l'univers, mais n'a pas de point d'ancrage fixe comme pourrait l'être, par exemple, un individu. Alors, laisse-t-il la place à un hypothétique sujet du désir, le sujet psychanalytique, qui résisterait à la toute-puissance de ce montage idéologique si ingénieux, qui a résisté tout de même à 4 siècles de colonisation? La question, je crois, reste en suspens, même si les automies font un pari audacieux, qui est que les discours sur le monde, tels que les mythes et ceux concernant la vie privée, les rêves, les affects, s'inscrivent dans un seul espace psychique. Ça, c'est ce que je trouve absolument fascinant. Je trouve, moi-même qui suis athée, je suis littéralement en admiration devant cette espèce de représentation du monde aussi sophistiquée et aussi palpable en quelque sorte, qui a une véritable logique interne. En fin de compte, je crois que l'idéologie automie aboutit à une conclusion qui est peut-être recevable par la pensée freudienne, à savoir que ce vieux sac se présente comme une sorte d'inconscient universel par défaut. On l'a dit, il est délié de toute attache idiosyncrasique. Il est occulté au moment où il se dévoile, au moment du rapport sexuel, par le shimoi, la connaissance du monde, la connaissance du diable, de comment est construit le monde. Il relèverait par là même de ce patrimoine qui est partagé par tous, les vivants et les morts, les pères et les mères, comme l'on dit dans la tradition indienne, et leurs descendants. Donc il serait installé à l'opposé de la conscience, que Green appelle le pôle ou la zone différenciatrice, fondatrice de l'identité individuelle ou culturelle, et cette inconscience serait bien l'entité impersonnelle constitutive du genre humain. Donc voilà en gros ce que je pouvais dire très rapidement, et je m'en excuse parce que c'est une question extrêmement complexe sur cette théorie indigène, indienne, amérindienne de l'appareil psychique et de ses prolongements.